Suite des matins avec la revue de presse internationale de Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour.
Donald Trump a prononcé cette nuit devant le Congrès son deuxième discours sur l'état de l'Union. Qu'en ont retenu les journaux américains?
Eh bien d'abord un Donald Trump qui a sacrifié à la rhétorique de l'unité nationale, de la concorde politique entre républicains et démocrates, la recherche du compromis au service de l'intérêt général du pays. C'est le premier extrait de ce discours d'1h20 choisi par le Washington Post.
We must reject the politics of revenge, resistance and retribution.
Nous devons rejeter la politique de la revanche, de la résistance et du châtiment, déclare Donald Trump, pour embrasser le potentiel infini de la coopération, du compromis et du bien commun. La victoire ne doit pas être celle de notre parti, mais celle de notre pays. Et alors c'est un peu convenu, hein, reconnaît le Washington Post, mais c'était un passage obligé face à un Congrès particulièrement divisé autour du budget fédéral qui n'a pas été voté et ça a entraîné le plus long shutdown de l'histoire américaine. Alors que la question du financement du mur voulu par Trump à la frontière mexicaine n'est pas du tout réglée, le président a donc appelé à trouver un accord par-delà les désaccords, mais ses paroles suivantes n'ont pas vraiment œuvré dans ce sens.
An economic miracle is taking place in the United States.
Il y a un miracle économique qui est en train de se produire aux États-Unis et la seule chose qui peut l'arrêter, ce sont les guéguerres stupides, la politique ou les ridicules enquêtes partisanes. Sur la vidéo que je mettrai en ligne, vous verrez la réaction abondamment commentée de Nancy Pelosi, la speaker démocrate du Congrès. Elle était assise juste derrière le président pendant tout le discours et sur son visage, on lit quelque chose comme « Et voilà, il n'a pas pu s'empêcher d'attaquer l'enquête spéciale menée contre Donald Trump et sa campagne 2016 pour ses liens de plus en plus fortement suspectés avec la Russie. »
Alors forcément, ce n'est pas avec ce genre de paroles, Camille, qu'on apaise les tensions.
Oui, c'est l'opinion du New York Times pour qui, au final, ce discours sur l'état de l'Union n'aura fait qu'exacerber les divisions entre démocrates et républicains, en particulier à partir du moment où Donald Trump s'est engagé sur le terrain de l'immigration, de la frontière mexicaine et du mur qu'il jure toujours de construire.
Congress has 10 days left to pass a bill.
Il reste au Congrès 10 jours pour voter le budget qui va financer notre administration, protéger notre patrie et sécuriser notre très dangereuse frontière sud. Nos agences vous diront que là où l'on construit des murs, l'immigration clandestine diminue fortement. Alors juste après, Trump a aussi affirmé qu'année après année, un nombre incalculable d'Américains sont tués par des criminels illégaux étrangers. Alors clairement, c'est sur ce point-là que l'on trouve ce matin le plus de contradictions dans les journaux. Les vérificateurs de faits de USA Today, par exemple, nous rappellent que contrairement à ce qu'a dit Donald Trump, les immigrés commettent en moyenne moins de crimes que les citoyens américains. CNN, de son côté, a consulté les chiffres de la criminalité à El Paso, la première ville frontalière où un mur a été érigé dès 2008 et que Trump a cité en exemple tout à l'heure. Alors oui, le nombre de crimes y a diminué, mais la tendance, nous dit CNN, avait commencé avant la construction du mur et elle s'inverse plutôt ces dernières années. Pas de lien évident donc entre mur, baisse de l'immigration et baisse de la criminalité.
Bon, on laisse un peu Donald Trump. On va s'intéresser en revanche à l'un de ses plus fidèles alliés à travers la planète d'Israël, Benjamin Netanyahou. Il est visé par de nombreuses critiques dans la presse.
Et c'est la chaîne israélienne E-News, E24 News qui compile ses reproches adressés au Premier ministre pour avoir refusé de renouveler la semaine dernière le mandat des observateurs internationaux, de la TIPH, la mission baptisée Présence internationale temporaire pour la ville d'Hébron. Le temporaire, en fait, il dure depuis 22 ans, nous explique le quotidien Haaretz. La TIPH était née des accords d'Oslo en 1993. Tous les 6 mois, l'autorité palestinienne et Israël renouvelaient son mandat et ses observateurs jouaient un rôle de tampon, de médiation entre habitants palestiniens et israéliens de Hébron, ville de Cisjordanie, symbole, il faut bien le dire, des violences de la cohabitation, coupée en deux par la présence du tombeau des patriarches et l'expansion perpétuelle des colonies juives. Les derniers agents de la TPH n'ont donc eu d'autre choix, déplore le Jérusalem Post, que de raccrocher leur gilet pare-balles la semaine dernière, de quitter Hébron s'effondreront, laissant les deux communautés face à face. Et c'est donc cet abandon qui est dénoncé un peu partout depuis une semaine. À Haaretz, on reparle ce matin parce qu'hier, la France a mis en garde contre un possible embrasement des tensions autour d'Hébron. Mais plus largement, note I24 News, les pays qui participaient à la mission d'observation, à commencer par la Turquie et la Norvège, fustigent une décision de Netanyahou qui piétine l'esprit des accords d'Oslo, qui arrive juste après un rapport de la TIPH faisant état de nombreuses violations du droit international de la part de l'armée israélienne à Hébron, et une décision enfin qui pose cette question: Benjamin Netanyahou veut-il vraiment la paix au Proche-Orient? Les journaux israéliens répondront volontiers que ce que veut le Premier ministre pour le moment, c'est surtout survivre aux élections législatives du 9 avril, qui seront clairement un référendum stop ou encore Netanyahou selon Haaretz, et où la victoire semble loin d'être acquise pour l'homme fort de la droite israélienne.
Merci Camille Magnard.